Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes avec Régis. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Dans la dernière émission, je recevais Monique Roboul, directrice du Théâtre du Vélin, mais c'est aussi la rentrée pour le Conservatoire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu. Et j'ai le très grand plaisir d'être accompagné aujourd'hui de son directeur Florence Tresser. Mais je dois dire que ce n'est pas uniquement le directeur du conservatoire qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi l'homme, tel qu'il est, avec ses goûts musicaux personnels, son histoire, ses coups de cœur, etc. Bonjour Florence Tresser.
Bonjour.
Alors, je suis toujours très curieux de savoir comment mes invités arrivent à Bourgoin-Jallieu. Voilà, vous y êtes déjà depuis quelques temps.
Cinq ans, oui, maintenant.
Plus de cinq ans déjà. Mon Dieu, comme le temps passe. Je posais la même question à Monique Roboul, qui nous a expliqué un petit peu son parcours. Et vous, alors, comment êtes-vous arrivé à Bourgoin-Jallieu?
Je crois que il y a beaucoup de parcours de vie qui sont le fruit de rencontres. Peut-être pas du hasard, mais en tout cas de rencontres, d'instants qui déclenchent des bifurcations ou des continuités selon le cas, ou quelquefois des ruptures. Voilà. Donc moi, je suis né dans une famille qui n'était pas musicienne, mais une famille mélomane. Et j'ai toujours, aussi loin que je me souvienne, j'ai eu envie d'apprendre la musique. J'ai commencé par le violon, qui était mon choix.
D'accord.
Voilà, il n'y avait pas besoin.
Dans le cadre du conservatoire?
Alors j'ai commencé effectivement au conservatoire à Belfort, là où j'habitais à ce moment-là. D'accord. Où j'ai passé toute mon enfance. Et puis j'ai fait du violon, donc je jouais au conservatoire, je faisais plein de choses avec la musique. On faisait beaucoup de musique aussi en famille ou avec les amis. Les dimanches d'hiver, on se retrouvait avec deux familles très amies et on faisait la musique ensemble. Et ça, ces dimensions collectives de la musique que j'ai vécues depuis que j'avais 6, 7, 8 ans a été toujours pour moi très importante.
C'est assez traditionnel dans l'Est de la France, ce genre de rencontres.
Peut-être oui, peut-être plus qu'ailleurs. Il y a une culture.
Et en Allemagne aussi, les petits concerts familiaux, je dirais.
Et puis bon, ça marchait pas trop mal à l'école, je savais pas trop quoi faire. Et puis je me suis retrouvé, comme beaucoup, en classe prépa aux écoles d'ingénieurs, sans trop savoir forcément pourquoi j'y allais. Tout en continuant à faire de la musique, je rentrais le samedi pour continuer à prendre mon cours de violon. Et puis je jouais dans l'orchestre du conservatoire, qui répétait le samedi. Voilà.
Alors d'un côté des études d'ingénieur.
Pas encore d'ingénieur.
Enfin, classe préparatoire.
Classe préparatoire, voilà.
Et puis toujours la musique en filigrane.
Musique en filigrane. Et puis, au beau milieu de l'année de Matsup, on a eu l'occasion de travailler un concerto de Mozart, le concerto 23, là, en la majeure. Et puis, je me souviens là très 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 nettement d'un moment d'émotion intense, le jour du concert, où je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas vivre sans la musique.
Vous aviez quel âge à cette
époque? J'avais 17 ans.
En effet.
17 ans, voilà.
D'accord.
Donc, donc je suis allé voir mon père et j'ai eu la chance qu'il soit très compréhensif et qui m'ait toujours fait confiance. Et quand je disais que la vie est une histoire de rencontres, je crois que c'est aussi une histoire de rencontres de gens qui, à un moment donné, vous font confiance.
Oui, bien sûr.
Et j'aurai l'occasion plus tard dans l'émission de faire allusion à quelques rencontres aussi. Et donc mon père m'a fait confiance. Il me dit, écoute, si c'est... Lui est ingénieur de métier, donc il aurait très bien pu dire, non, d'accord, mon fils, tu feras ingénieur comme ton père. Voilà, non, il m'a fait confiance. Et puis, simplement... pas l'année Matsup, c'était l'année de Matspé, parce que voilà, j'étais déjà en deuxième année. Voilà. Il m'a dit simplement, je te demande de terminer l'année, d'aller au bout. J'ai passé les concours, j'ai eu quelques bonnes notes, j'ai pris quelques belles raclées dans d'autres matières. Mais voilà, et puis donc, du coup, je voulais vous proposer de commencer l'émission avec ce moment qui a déclenché pour moi.
Le facteur déclenchant de la vocation de Florence Tresser.
Voilà, donc c'est le deuxième mouvement du 23e concerto pour piano et orchestre de Mozart. Ce deuxième mouvement. Ouais. Le moment d'émotion très précis que j'ai eu, c'est après le premier solo où le piano joue seul, c'est l'entrée de l'orchestre. L'entrée de l'orchestre qui est absolument sublime. Et le deuxième moment dans ce mouvement, c'est tout un moment où, où la main gauche du piano dialogue avec le basson et avec les instruments graves de l'orchestre, avec des petites notes qui se répondent, voilà, une petite grille d'écoute.
D'accord. On écoute donc ce concerto numéro 23 de Mozart.
Peut-être juste une chose, préciser que c'est un enregistrement historique et que c'est donc sur un pianoforte, copie d'un instrument contemporain de l'époque de Mozart, d'où une sonorité un petit peu particulière
pour les gens qu'on a l'habitude d'entendre par rapport au Steinway actuel.
Voilà, tout à fait.
Ouh là là. Il me semble que je lis encore l'émotion sur votre visage, Florent.
Oui, parce que bon, ben c'est... On a comme ça chacun de tous, dans sa vie, des œuvres qu'on porte au plus profond de soi et s'en est une.
Oui. Alors donc, vous voilà maintenant à 17, 18 ans, 19 ans dans la musique, à plein temps, si j'ose dire. Et vous entamez donc une carrière de musicien et on arrive au conservatoire de Bourgoin-Jallieu alors. Mais entre-temps, il se passe quand même quelques années.
Oui, 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 avec plein d'expériences, avec une formation, ensuite un métier d'enseignant, et puis ensuite un métier de développeur culturel.
D'accord.
Je suis un petit peu sorti des conservatoires, et puis un retour dans les conservatoires sur une position de direction qui pour moi était une bonne synthèse entre cette première phase d'enseignant qui a occupé une vingtaine d'années de ma vie, cette deuxième phase de ma vie professionnelle qui a duré 14 ans et des poussières, où j'avais la charge de développer tout ce qui tournait autour de la voix, des pratiques chorales en Lorraine.
Oui.
Et donc revenir vers les conservatoires sur un poste de directeur, c'était pour moi faire la synthèse entre la pédagogie et le développement culturel. Voilà.
D'accord.
Cette logique-là.
Donc au tout début des années 2000, vous arrivez à Bourgoin-Jallieu, vous prenez la succession de Gérard Lefebvre. Pourquoi Bourgoin-Jallieu? Parce que vous aviez postulé, non vous? Comment ça s'est passé, en fait?
C'était j'ai pris mon poste en février 2011, hein, puisque Gérard est décédé, malheureusement, de manière prématurée, en juillet 2010.
Ouais.
Et c'était l'année 2010, c'était une année où je me posais des questions, justement, sur un nouveau et dernier rebond dans ma carrière.
Ouais.
Et je m'étais dit, pourquoi pas retourner comme professeur de chant choral et direction chorale dans les conservatoires. Et puis le poste de Bourgoin était libre et je suis venu postuler à Bourgoin. Voilà. Et puis,
d'abord pour le chant choral.
Pour le chant choral, voilà. Et puis, ça, c'est pour différentes raisons, ça ne s'est pas fait. Parce qu'entre-temps, je m'étais rendu compte que finalement, ce n'était pas de ça que j'avais vraiment envie.
Ouais.
Et puis, je m'étais dit, par contre, si une fois un conservatoire comme Bourgoin se libère, c'est ce type de conservatoire avec le projet, avec la dynamique du projet qui était celle de ce conservatoire m'intéresserait, voilà. Et puis quelques mois plus tard, donc dans des circonstances dramatiques, le poste s'est libéré et donc j'ai postulé, voilà. J'avais envie de venir aussi en Rhône-Alpes, changer un petit peu
changer d'horizon
du quart nord-est de la France qui avait vu l'essentiel de ma carrière, voilà. Donc
d'accord. Ok. Et voilà, donc vous arrivez en 2010-2011 à Bourgoin-Jallieu.
Février 2011, voilà.
Et là, donc, vous vous dites, je vais faire des choses au conservatoire. Et vous parlez, évidemment, d'une nouvelle programmation, de choses un peu différentes, etc., etc.
Différentes, peut-être pas au départ, puisque, le conservatoire Hector Berlioz a été caractérisé sous l'impulsion de Gérard Lefebvre par un très grand dynamisme et surtout une manière de fonctionner autour de projets artistiques et de la présence d'artistes. Ça a été sa marque de fabrique depuis toujours. Donc je me suis inscrit dans cette dynamique-là. Et on a la chance que la collectivité qui nous soutient, la CAPI, donc la communauté d'agglomération Port de l'Isère, nous donne des moyens pour faire vivre toute une saison culturelle qui met sur scène à la fois les élèves, leurs enseignants, des artistes invités. Ça, c'est vraiment une grande chance. Voilà.
D'accord.
Et donc, chaque année, on a un certain nombre de projets pédagogique, artistique. On rencontre un certain nombre d'artistes, dont certains sont en résidence comme on dit, sur des périodes un petit peu plus approfondies. Oui. Voilà.
D'accord. Cette année, quel est l'artiste en résidence?
Alors, on en a plusieurs. On a régulièrement un compositeur en résidence pour des périodes de 2 années scolaires, pour nous laisser le temps de construire. Et en ce moment, c'est Alexandros Markeas, qui est un compositeur d'origine grec, qui vit en France depuis de nombreuses années, qui est professeur au Conservatoire supérieur de Paris. Et puis on a
un concitoyen de Xenakis, ça va?
Oui, je crois. Oui. Et on va aussi avoir 2 musiciens de jazz, on va en parler juste après, voilà.
D'accord. Et donc dans vos projets immédiats, comme toutes les années, les concerts de fin d'année.
Voilà, le concert de fin d'année qui est un rendez-vous important depuis de nombreuses années. On appelle le concert de Noël, même si le programme n'a pas forcément un lien
avec
ce temps de Noël.
Les fêtes de Noël.
Et cette année, ce concert sera donné deux fois, une fois le 13 décembre à la Tour du Pin et une fois le 16 décembre au Théâtre du Velin. Et il verra sur scène deux ensembles, d'élèves et d'enseignants, un ensemble format orchestre avant, dirigé par Christian Viraud, avec des œuvres plutôt 20e musique américaine, inspirée des comédies musicales.
D'accord.
Et puis un ensemble version symphonique, dont j'aurai la direction, qui réunira les élèves de 3e cycle et cycle pré-professionnel, et l'orchestre adulte, l'orchestre à Piacere du Conservatoire.
D'accord.
Et là, on aura le plaisir de présenter la symphonie numéro 5 de Schubert, et je vous propose d'en écouter le cinquième mouvement. Le troisième mouvement.
Le troisième
symphonie
mouvement.
Numéro 5.
Symphonie numéro 5, troisième mouvement.
Troisième mouvement.
Effectivement.
Voilà, qui est
je lis d'ailleurs dans la petite brochure du conservatoire que vous éditez régulièrement. Morceau de bravoure pour instrument solo, musique pour l'image de notre temps, etc. etc. Voilà. Donc,
un concert.
Un très beau moment encore.
Très, très éclectique. Voilà.
Donc on écoute cette symphonie numéro 5 de Schubert. Thank you. Voilà, c'était le troisième mouvement de la symphonie numéro 5 de Schubert, que nous entendrons donc à Bourgoin, sous la direction de Florence Tresser, le 16 décembre donc au Théâtre du Vélin, et puis il y aura une première représentation, un premier concert le 13 décembre à la salle équinoxe de la Tour du Pin. Donc vous voilà arrivé à Bourgoin-Jallieu, vous êtes directeur du conservatoire et vous vous dites bah, j'ai quand même envie de faire des choses quoi. Est-ce que il y a des choses auxquelles vous tenez particulièrement comment ça se passe quand on devient directeur d'un conservatoire comme celui de Bourgoin et on fait avec ses goûts personnels, comment ça se passe?
Je crois que ça peut dépendre un petit peu des personnes et des tempéraments. Moi, j'ai souhaité fonctionner à partir de toute la richesse de l'établissement. On a la chance d'avoir un corps enseignant très compétent, très qualifié et qui a plein d'idées. Et donc, on a assez rapidement fonctionné plutôt sous forme d'appel à projet, c'est-à-dire, grosso modo, au mois de décembre, janvier, jusqu'au début février de l'année précédente, une nouvelle année scolaire, ouais. Les enseignants font remonter un certain nombre d'intentions, d'envies. Voilà. Et puis ensuite, au mois de mars, on fait ce qu'on appelle la bourse au projet, c'est-à-dire que tous les enseignants qui le souhaitent peuvent venir présenter leurs projets à leurs collègues ou écouter les projets des autres collègues. Ça, on fait ça dans l'idée de croiser le plus possible.
C'est vraiment la démocratie, alors. Hein.
Oui, enfin, en tout cas, une forme de travail collaboratif.
D'accord.
Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut assumer que tous les projets ne sont pas possibles. Oui, il y a aussi des contraintes de toute nature. Et puis, voilà. Et puis moi, avec l'équipe de direction, on met aussi un certain nombre de projets sur la table.
Oui,
et puis les choses se discutent. Mais
bien
je pense
sûr.
Que si on ne part pas de l'envie et de la passion de chacun, pas seulement de la mienne, mais celle de tous les collègues...
On risque de ne pas aller très loin.
De ne pas aller très loin, voilà. Donc c'est tout ce travail de construction qui se fait entre le mois de décembre et le mois d'avril, mais voilà, chaque année, pour l'année précédente, pour l'année suivante. Voilà.
D'accord.
Et donc, par exemple, dans les propositions qui nous ont été faites par les enseignants, il y a maintenant de nombreux mois, Laurent Richard, donc professeur de saxophone jazz, nous a proposé de travailler avec deux artistes très très intéressants, André Charlier, batteur, et Benoît Souris, pianiste, qui sont des pointures de niveau international. On a un département de jazz qui est très dynamique et qui rayonne bien, qui attire aussi des élèves. Et donc, on a eu envie de monter un projet sur la durée avec ces deux artistes. Et puis, on a eu envie aussi de partager ce projet avec d'autres conservatoires.
Oui.
Et donc, on l'a proposé au conservatoire de ce qu'on appelle le pôle métropolitain, donc en d'autres termes, le pays viennois, Lyon métropole, Saint-Étienne métropole,
et la CAPI,
voilà.
Et puis maintenant, il va y avoir deux nouveaux participants, hein, vous le savez.
Voilà, hein, tout à fait. Et donc, ce projet se déroule sur 2 ans. On a commencé piano l'année dernière, et ça va s'accélérer crescendo jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
D'accord.
Et donc ces deux artistes viennent régulièrement, travaillent avec les élèves, avec les enseignants, et tout ça va aboutir, la cerise sur le gâteau, ça sera la présence d'un big band issu des 5 conservatoires, donc Saint-Étienne, Lyon, Villeurbanne, Vienne et Capi, sur la grande scène de Jazz à Vienne au Festival 2017.
Ah, génial.
Voilà.
Ah ouais, vraiment, vraiment super. Alors ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Ça sera une première, non?
Je crois, dans l'histoire du festival.
Oui, il me semble bien que dans l'histoire du Festival Jazz de Vienne, c'est...
Puis voilà, donc le souhait de travailler en réseau, de favoriser les rencontres, que ce soit à l'intérieur de l'établissement, mais aussi... hors les murs de notre établissement.
Voilà. D'accord.
Et donc, tous les enseignants, tous les élèves travaillent sur le répertoire, une partie du répertoire, parce qu'ils ont un répertoire immense.
Oui.
Ces deux musiciens ont fondé un big band qui s'appelle le Multiquarium Big Band, dont ils font la plupart des compositions et des arrangements avec les musiciens, avec les musiciens de l'ensemble.
Oui.
Et donc l'idée, c'est que les élèves sur scène, encadrés par 5 des musiciens de ce groupe professionnel, ils jouent une partie de ce répertoire.
Le groupe professionnel comprend combien de musiciens?
Alors, quand ils sont dans la formation Big Band, ils sont 17 ou 18.
D'accord.
Mais sous cette étiquette-là, ils sont aussi à géométrie variable. On les a accueillis l'année dernière en sextuor. Donc le répertoire peut s'adapter. C'est le propre du jazz aussi, c'est qu'un même thème peut prendre des formes très différentes selon les musiciens qui l'interprètent.
D'accord. D'accord. Donc, on écoute.
Voilà, mais
on écoute Multiquarium Big Band, le Mingus Street Blues.
Thank you.
Voilà, c'était donc le Multiquarium Big Band. Alors, moi, je suis toujours un peu surpris par la diversité de vos goûts musicaux. On a commencé par Mozart, on est passé à Schubert, nous voilà dans le jazz. Ça dénote quand même une certaine ouverture, un certain éclectisme, je dirais.
Oui, mais parce que je pense que la musique avec un grand M est composée de plein de musiques avec plein de S pluriels, et aujourd'hui plus que jamais avec...
Alors là, vous prêchez un convaincu. Hein.
Avec le développement de l'accès aux médias, ouais, avec l'Internet, etc. Ouais. On a accès à une multitude de choses. Ouais. Et quelquefois, on pourrait dire trop, mais il n'y en a jamais trop. Le tout, c'est de trouver son chemin et de pouvoir un petit peu faire ses choix. Et
oui.
Ça qui est important.
Pourvu qu'il soit bon.
Oui, ben bon.
Pourvu que la musique soit bonne.
Voilà, pourvu que la musique soit bonne. Voilà. Voilà, donc effectivement, bon, la musique classique, mais le jazz, je me dis quelquefois que dans une autre vie, je serais peut-être musicien de jazz, pourquoi pas. voilà.
Une réincarnation possible.
Et puis donc, au départ, quand même, mon parcours me portait vers la musique instrumentale, puisque je faisais des études de violon, et au moment où j'ai décidé de faire que de la musique, je me suis inscrit au conservatoire à Strasbourg pour, dans l'idée de devenir violoniste professionnel, oui. Jouer en orchestre, etc. Voilà. Et puis, je me suis inscrit en même temps du coup à l'université parce que le conservatoire me semblait un petit peu étroit. À l'époque, on faisait du violon, du solfège et c'était à peu près tout, et puis l'orchestre.
Oui. Oui.
Et puis à l'université, à Strasbourg en tout cas, on avait l'obligation de faire de la musique chorale. Il y avait une heure et demie, deux heures de chant choral toutes les semaines, dès
d'accord.
la première année. Donc là, j'ai découvert le plaisir de la voix.
Oui.
Et puis donc, ça m'a ouvert vraiment beaucoup à d'autres modes de musique.
Oui.
Et puis, donc finalement... Je me suis retrouvé un petit peu tiraillé entre la pratique d'un instrument. Entre-temps, j'étais passé au violon alto, à l'alto.
Oui. Qui,
là aussi, il y a eu un coup de foudre. Le jour où j'ai eu un alto en main, je me suis dit, c'est ça, c'est pas
c'est,
le violon.
Ça, c'est mon instrument.
C'est mon instrument. Ouais. On s'est trouvé tout de suite.
Ouais.
Des choses que je passais des heures à travailler au violon tombaient sous les doigts beaucoup plus facilement
oui.
à l'alto. Voilà, il y avait quelque chose qui s'est passé. Puis le son, la sonorité de l'alto. Voilà, donc j'étais tiraillé entre la voix et l'alto. Et puis voilà, donc j'ai eu envie de continuer notre émission par justement une œuvre qui mélange la voix, l'alto et le piano.
Ah oui.
Un lied de Schubert, et vous allez voir, le Schubert de tout à l'heure, c'était le Schubert plein de joie de vivre, plein d'exubérance dans cette symphonie. Et là, c'est le Schubert plein de mélancolie, plein de douleur aussi, avec ce lied donc, qui s'intitule « Ich schleiche bang und still herum ». C'est Antoine Damesti qui joue de l'alto, un altiste extraordinaire, Sandrine
Virtuose.
Pio. Une Sandrine Pio, une soprano tout aussi extraordinaire, et ils sont accompagnés par Marcus Hadula.
Absolument. Alors on écoute... C'était donc Sandrine Piau qui chantait un lead de Schubert accompagné au piano et à l'alto. Vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes et notre invitée aujourd'hui est Florence Tresser, directeur du Conservatoire Hector Berlioz à Bourgoin-Jallieu. Alors, on vient de l'entendre, l'alto, la voix.
Entre les deux, mon cœur balance.
Entre les deux, mon cœur balance, si je puis dire, effectivement. Enfin, vous le dites vous-même.
Hein. Tout à fait.
Sans faire de choix définitif, j'ai l'impression.
À un moment donné, si, il faut choisir. Et puis, alors là encore, on parlait des rencontres. Le professeur de chant choral et de direction, enfin, non, de chant choral à l'université, Erwin List, vient un jour dans un cours en disant, tiens, je fais un week-end d'initiation à la direction de chœur, s'il y en a que ça intéresse. Et puis, j'y suis allé.
Oui.
Et puis voilà, ça a été le déclic.
Et là aussi, vous avez trouvé chaussure à votre pied.
Ça a été le déclic. Ouais. Et puis, je me suis dit, ben, c'est ça. À l'époque, ce n'était pas du tout un métier. Il n'existait aucune formation de chef de chœur. Voilà, mais je me suis dit, donc je me suis formé essentiellement sous forme de stage, parce que c'était le seul moyen. Et puis, je me suis dit, ben, j'en ferai bien quelque chose. On verra bien. Et puis, à l'époque aussi, la même année, on a eu l'occasion... de donner un concert, on l'a donné plusieurs fois, avec au programme cette œuvre absolument, c'est un des monuments de la musique chorale, en général, et de l'œuvre de Bach en particulier, c'est ce motet Jesu meine Freud.
Ouais.
Et là aussi, je parlais du Mozart qui était tout au début mon premier déclic, et ça m'a confirmé dans l'idée qu'il fallait que je donne une place importante à la direction de chœur dans ma vie. Voilà.
Ouais. Donc on va l'écouter, bien sûr.
On va écouter, donc c'est la pièce centrale du motet, qui est une fugue absolument jubilatoire, qui est sur les paroles « Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich »,« Mais vous n'êtes pas fait de chair, mais d'esprit ». Et Bach donne une vitalité, une légèreté à cette musique absolument fabuleuse.
Ouais. Moi, je dois dire, personne n'ignore ici que je suis choriste amateur, et quand on parle de la voix et du bonheur que l'on peut avoir à chanter... je souscris et j'applaudis des deux mains et des deux pieds, quoi, hein, bien sûr. Hein. Bach, donc, motet, Jesu meine Freude. Je dis souvent que Bach a l'art et la manière de me mettre la chair de poule. Voilà. Mais je ne dément pas et je continue à le dire. Alors, en préparant cette émission avec vous, Florent, on s'est dit, vous m'avez dit, tiens, il y a des choses que j'emmènerais bien sur une île déserte. Alors, bon, tous les musiciens ont cette question cruciale de se dire qu'est-ce que je conserve de tout ce que j'ai entendu et joué. C'est difficile de répondre à la question. Personnellement, moi, j'y arrive pas. J'aurais un choix à faire parmi toutes les musiques que j'aime, je n'arriverai pas à faire de choix. Vous pourriez le faire ?
Très difficilement, mais c'est vrai qu'il y a comme ça quelques musiciens. Bon, on est passé par Mozart, par Schubert, par Bach, Poulenc et la musique chorale, oui, certainement.
Oui. Et ça, vous l'emmenez sur l'île déserte.
Oui. Et puis après, il y a des musiques plus contemporaines, des musiques du XXe siècle, Stravinsky. Et puis, bon, il y a des compositeurs que j'apprécie particulièrement qui sont peut-être moins connus du grand public. Aujourd'hui, Thierry Esquèche, par exemple,
oui,
il écrit des choses fabuleuses. Oui. Voilà.
Arvo Pärt,
beaucoup de compositeurs des Scandinaves aussi. Oui. On pourrait une fois refaire une émission sur la musique chorale scandinave.
Il y a des
perles dans cette musique-là.
Oui, tout à fait. Exactement.
Voilà. Ouais. Et puis, j'ai aussi une passion particulière pour les groupes vocaux de toute nature, aussi bien dans le domaine de la chanson que des musiques traditionnelles, oui, que du jazz. Quand je dis groupes vocaux, c'est-à-dire c'est 3, 4, 5, 6, 8 chanteurs qui, oui, parlent uniquement par la voix ou en étant accompagnés de très peu d'instruments, créent tout un univers sonore.
Oui. Voilà.
Donc dans le domaine du jazz, il y a eu bien sûr en France les Double Six, groupe mythique. Il y a eu aux États-Unis les Manhattan Transfer, etc.
Je me souviens d'un groupe dans ma jeunesse qui s'appelait les Swingle Singers.
Les Swingle Singers aussi, bien sûr,
qui était extraordinaire.
Et il y a eu une explosion ces 15-20 dernières années de groupes vocaux de tout genre dans beaucoup de pays. Et on a en France de très très bons groupes vocaux.
Méconnus
quelquefois, ou qui commencent à tourner aussi, mais qui, oui, c'est sûr qu'on ne les entend pas
sur les grandes ondes
périphériques.
Sur les grandes,
oui, voilà. Et il y a un groupe pour lequel j'ai une tendresse particulière, c'est un groupe de jazz vocal qui est dans la lignée des Double Six, il s'appelle les Voice Messengers. C'est Thierry Lalot qui en est le directeur artistique et l'arrangeur. Et comme leur nom ne l'indique pas, puisqu'ils se sont affublés d'un nom anglais,
oui,
ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur des textes en français. Et Thierry a l'art de faire swinguer le français.
Et Dieu sait si c'est difficile.
Voilà. Et il a aussi quelque chose qui lui est propre, c'est qu'il a réussi remarquablement bien à mettre en musique des œuvres poétiques très, très, très fortes,
ah oui,
qui n'auraient pas forcément d'ailleurs besoin de la musique, mais il réussit vraiment à en faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai envie de vous faire découvrir donc cette composition, qui est à la fois une composition et un arrangement, de Thierry Lalot, donc, avec son groupe, sur ce poème bien connu de Baudelaire, L'Albatros.
Volontiers, on écoute alors.
Oh, blanche que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons. Si beau qu'il est comique et laid. L'âne agace son bec avec un bruit de gueule. L'autre mime en boitant qui volait. Oh, oh,
semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer exilé sur le sol. Au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
C'était les Voice Messenger qui chantaient l'Albatros de Baudelaire et je dois dire que je suis conquis, vraiment. C'est une très très belle pièce, vraiment. Alors, on a écouté évidemment vos choix musicaux, Florent, qui sont, comme on l'a vu, assez divers et éclectiques. Mais je crois qu'il y a une chose qui vous tient particulièrement à cœur, d'abord dans votre métier d'enseignant et maintenant en tant que directeur de conservatoire, c'est effectivement cette transmission du savoir, donner l'envie aux jeunes et aux moins jeunes, bien sûr, cette envie de faire de la musique sous toutes ses formes. Hein, aujourd'hui, je me bats un peu contre l'appellation classique, hein, vous le savez, depuis longtemps. Dites-nous en deux mots, cette motivation, c'est intrinsèque à votre personnalité ou cette envie de transmettre ?
Difficile de dire où ça trouve ses racines. C'est une question d'éducation, une question de rencontre. Tout jeune, pendant mes années lycée aussi, j'étais bien impliqué comme animateur de centre de vacances, comme dans le centre socioculturel du quartier. Oui. Je pense à quelqu'un que j'ai rencontré à ce moment-là qui m'a donné le goût de l'éducation et le goût de l'éducation populaire au sens noble du terme. Voilà. Oui. Et je pense que c'est sans doute ça qui m'a fait basculer vers la musique chorale plutôt que vers la musique instrumentale, c'est qu'elle est par essence une musique de transmission, de partage,
oui,
où finalement le chef de chœur n'existe que, c'est à la fois sa C'est passionnant, mais c'est quelquefois frustrant. Le chef de chœur n'existe que par, grâce et avec les autres.
C'est vrai.
Contrairement à l'instrumentiste qui prend son instrument et se met à jouer. Et voilà. Chef de chœur, il est tout seul, il est rien. Il n'existe que parce qu'il arrive à emmener des autres dans son bateau et à ramer tous ensemble dans la même direction et à partager.
Et à créer quelque chose ensemble.
Ouais. Ouais. Donc c'est vrai que ça a toujours été ma passion. Et comme prof, et puis finalement comme directeur aujourd'hui, je continue à faire ça par procuration. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de faire en sorte que les collègues, que l'établissement propose, que ce soit dans les murs, hors les murs, dans les écoles primaires.
Tous azimuts, voilà.
Ouverture maximum. Et puis c'est vrai que c'est par les enfants, par les jeunes qu'il faut commencer, voilà. Et donc j'ai eu envie de terminer cette émission par quelque chose qui m'a marqué, mais que je garderai tout au fond de moi jusqu'au bout, c'est cette expérience à l'origine de laquelle je me suis retrouvé avec un ami chef de chœur allemand. Dans mon poste précédent en Lorraine, là j'habitais Metz, on a créé un chœur de jeunes, 18-30 ans, transfrontalier avec la Belgique, le Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat et la Lorraine. Oui. L'envie d'en faire un lieu de rencontre, un lieu musical, un lieu avec une vraie exigence artistique, mais un lieu aussi où les jeunes pourraient apprendre à se connaître, à partager leur culture, à se comprendre. Et tout à fait symboliquement,
c'était
on a donné...
C'était un peu l'Europe avant la lettre, non ?
Le chœur a été créé en 98, il existe,
ah oui,
il existe toujours,
bien engagé.
1998.
Ouais, Une concrétisation de l'Europe.
Voilà. L'idée, c'était de rendre aussi cette idée européenne. C'est vrai, quand on habite Metz, on est au cœur de...
Bien sûr.
Ou Strasbourg, on est au cœur de cette dimension tout européenne. C'était de donner l'envie aux jeunes de vivre concrètement cette réalité européenne. Et d'ailleurs, on a donné à ce cœur, tout à fait symboliquement, le nom de Robert Schumann, non pas le compositeur, l'homme politique qui est enterré...
Un des pères fondateurs de l'Europe, enterré tout
à côté de Metz. Voilà.
D'accord.
Et
Schumann,
donc,
Robert Schumann,
Robert
avec
Schumann,
un solène.
Avec un solène, voilà, qui va vous interpréter un gospel, Plenty Good Room. Voilà.
Donc, à signaler quand même que vous étiez trois chefs et que chacun à votre tour, vous avez dirigé un certain nombre d'œuvres de ce concert.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est assez rare pour être noté. Ce chœur n'était pas le chœur d'un seul chef.
Voilà.
On était quatre,
hein,
un Belge, un Allemand, un Français, un Luxembourgeois.
D'accord.
Et tous les projets étaient construits ensemble, un peu comme l'Europe. On décidait des programmes et on était en général toujours deux dans chaque session à se partager le programme, à faire travailler les jeunes. Et je pense que pour les jeunes, ça a été une expérience passionnante. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes de ce chœur sont aujourd'hui chanteurs professionnels ou chefs de chœur parce que je crois que ça les a beaucoup
marqués. Ça les a vraiment
motivés. Oui.
D'accord. On écoute alors ce chœur Robert Schumann.
Glory to you.
Voilà, c'était donc le chœur Robert Schumann où Florence Tresser dirigeait un certain nombre de pièces. Je vous laisse la parole, Florent, pour les prochains événements du Conservatoire.
Alors, on a parlé du concert de Noël. Oui. Il y a tout un cycle de conférences dans le domaine des musiques trad, du jazz, etc. Donc, et je précise que ces conférences ne sont absolument pas réservées à des spécialistes. Il suffit d'être curieux. Il D'accord. suffit d'être curieux et de se renseigner auprès du conservatoire.
On s'inscrit et on arrive.
Voilà, on a bien sûr les folk clubs, les jazz clubs, comme chaque année. Et puis la grosse échéance, comme chaque année, au cœur de l'hiver, c'est les semaines contemporaines.
Bien
les
sûr.
Semaines contemporaines,
D'accord.
qui cette année seront du 20 janvier au 5 février.
D'accord. Alors je prends la suite des petites annonces, si je puis me permettre. Donc au Théâtre du Vélin, le Quatuor de Bussy en concert le 18 octobre, à ne pas manquer. Vraiment, c'est un très très bon quatuor. À l'Auditorium de Lyon, plein de choses. Allez voir sur le site auditorium-lyon.com. Et à l'Opéra de Lyon, L'Ange de Feu de Prokofiev. Mais là aussi, allez consulter le site opéra-lyon.com. Merci beaucoup, Florent. On connaît un peu mieux l'homme maintenant. Merci beaucoup pour ce temps si précieux que vous nous avez accordé.
Avec grand plaisir.
Et puis on se reverra bien sûr.
Bien sûr.